Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tonnerre de Brecht, votre émission sur les arts vivants. Salut Léa.
Salut Martin. Aujourd'hui comme toujours, et on n'en finira jamais de le dire, nous sommes en belle compagnie, puisqu'avec nous en studio, Clément Pascaud.
Clément Pascaud, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui on va parler de votre création Phèdre, puisque vous êtes actuellement en résidence au bout du plongeoir.
C'est ça.
On va donc parler réécriture, création, mise en scène, il y a beaucoup de choses à raconter.
Mais avant, quelques actus. Ce soir à 22h sur la chaîne parlementaire Public Sénat, vous pourrez assister à la captation du spectacle « À rendre à Monsieur Morgenstern en cas de demande », écrit et mis en scène par Frédéric Moulin de la compagnie Les Beaux-Parleurs. La protagoniste trouve dans les affaires de son grand-père un dossier sur lequel est écrit « À rendre à Monsieur Morgenstern en cas de demande ». À l'intérieur du dit dossier, une centaine de documents personnels et administratifs appartenant à Léopold Morgenstern, réfugié juif ayant fui son pays en 1939 pour Lyon. Notre héroïne veut trouver le lien qui unissait son grand-père et ce monsieur Morgenstern et rendre tous ses papiers à ses descendants. Une enquête de longue haleine commence alors. À rendre à monsieur Morgenstern, un spectacle écrit et mis en scène par Frédéric Moulin, à regarder ce soir sur la chaîne parlementaire Public Sénat dès 22h.
Le collectif artistique Troisième Bureau organise son festival des écritures théâtrales contemporaines Regards croisés, qui se tiendra en ligne à partir du lundi 3 mai et ce jusqu'au 8 mai 2021. Une programmation riche en lectures et en rencontres tous les soirs à 20h30 sur les sites troisièmebureau.com et théâtrecontemporain.net. Avec comme temps fort, au matin du 6 mai, une table ronde autour de la question « Quel statut pour les artistes, auteurs, autrices ?» Regards croisés, Festival des écritures théâtrales contemporaines, ça commence dès lundi en ligne sur les sites de troisièmebureau.com et théâtrecontemporain.net.
Et enfin, une sortie littéraire cette semaine avec le dernier ouvrage de Laurent Godet chez Actes Sud Papier, La dernière nuit du monde. Le dramaturge nous plonge dans un théâtre d'anticipation où l'amour, ce sujet universel et atemporel, tiendra une grande place. À la suite de la découverte d'une pilule permettant de dormir seulement 45 minutes par nuit, la structure de la société doit être repensée dans son entièreté. Suite à tous ces bouleversements, un homme risque de perdre la femme qu'il aime.
Un beau programme à venir, encore en ligne, mais c'est bientôt fini.
Mais avant d'enchaîner avec notre invité, on fait la première pause musicale. Pour rester dans le thème de l'émission, je vous ai dégoté un groupe qui nous vient tout droit du Canada, de Toronto, et qui s'appelle Phèdre. Tout de suite, leur morceau « Dreams ».
Now
C'était le morceau Dreams du groupe Phèdre. Vous êtes toujours sur Syllab dans votre rendez-vous théâtral hebdomadaire Tonnerre de Brecht. Et aujourd'hui, nous sommes avec Clément Pascaud pour parler de sa nouvelle création, Phèdre, pour laquelle il est actuellement en résidence au bout du plongeoir. Vous avez créé votre compagnie en 2017, mais avant cela, vous avez fait énormément d'assistanat à la mise en scène. Quel a été le déclic pour vous qui vous a mené à monter vos propres mises en scène ?
Oui, le début de ma compagnie... en fait, c'est un parcours assez logique. En tout cas, vous êtes très gentil de dire que j'ai fait énormément d'assistants à la mise en scène. J'en ai plutôt fait un très marquant qui était avec Frédéric Mingan, de 2011 à 2015, avec, j'en dirais peut-être 4-5 créations. Voilà. On va dire que ça m'a permis d'être assistant à la mise en scène. Au fond, moi, à 18 ans, je ne savais pas trop pourquoi je voulais faire du théâtre. Je savais que je voulais faire du théâtre, mais je ne savais pas comment. Alors, est-ce que c'était en tant que comédien, en tant que... journaliste, en tant que metteur en scène, j'arrivais pas vraiment à savoir. Et j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric Mingan, qui m'a pris sous son aile en tant qu'assistant à la mise en scène. Et forcément, ça m'a donné le goût de la mise en scène. Ça m'a donné aussi le goût de vouloir monter mes propres textes, de raconter mes propres histoires. Aussi parce qu'en tant qu'assistant, j'avais aussi côtoyé des acteurs, des techniciens, on va dire tout un ensemble de personnes qui constituent la création et qui m'ont du coup encouragé à porter aussi un regard de metteur en scène. Et en fait, après, j'ai compris que dès 17 ans, au fond, je voulais être metteur en scène parce que ce qui me plaît le plus en théâtre, c'est de pouvoir m'emparer d'un texte et de pouvoir, on va dire, y raconter à la fois une histoire personnelle et une histoire universelle et de pouvoir défendre une ligne esthétique. Parce que, je vais finir sur ça, moi je suis, mon père est peintre et lithographe et j'ai toujours baigné dans le milieu plutôt des arts visuels, des arts plastiques. Et du coup j'ai toujours aimé ces peintres ou ces sculpteurs qui gardaient leur ligne comme ça, comme un peu des... on va dire des absolutistes, et je pense que dans le geste du metteur en scène, il y a sûrement un peu de ça. Voilà.
Vous avez, en plus de vos créations, dont on ne manquera pas de parler après, réalisé des commandes, et notamment Programme Penticillé en 2018 et Dévastation en 2020. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste, quelles étaient vos contraintes, et quelle différence vous faites entre vos mises en scène et vos commandes ?
Alors, on va dire que quand j'ai dit commande, Pantaisilé, je le mets un peu en décalage parce que je l'estime quand même comme une création. Je l'ai appelé commande parce que, en fait, moi, je suis donc, quand je suis arrivé à Nantes, j'ai monté ma compagnie en 2017. Je suis donc devenu, suite à ma première création, juste à la fin du monde de la Garce, artiste compagnon, donc artiste associé du TU Nantes, donc qui est un théâtre à Nantes qui, on va dire, est majoritairement dédié à la jeune création. Et du coup, dans ce parcours d'artiste associé, la directrice m'a proposé, donc durant un festival qui était organisé avec le JTN, le Jeune Théâtre National et les BIS, la Biennale du Spectacle, on va dire de proposer une forme. Et du coup, j'avais toujours voulu travailler sur ce texte, Programme Pantaisilé de Lina Prosa, qui était une réécriture du mythe de Pantaisilé. Et ça s'est fait un peu dingue, je l'ai monté comme ça en 10 jours. Et c'est vrai que la création a eu une très belle réception. Mais je la considère quand même comme une commande parce que ce n'était pas quelque chose que j'avais forcément prévu dans mon programme. Dévastation, ça vient d'une autre, je dirais que c'est une autre forme de commande. Dévastation, ça s'est fait donc là en octobre 20. C'était soutenu par les cadres un peu des fonds de relance, on va dire des fonds de, voilà, des fonds qu'on a essayé de trouver aux artistes pour qu'ils puissent permettre de créer une pièce comme ça. Donc j'ai eu l'idée de monter cette pièce, donc Dévastation Dimitriadis, qui est une pièce pour 10 acteurs et actrices, donc ce qui est aussi assez rare en ce moment. Et donc dans cette voilà, je l'ai un peu fait au dernier moment. Je l'ai pensé à la création en juin pour la créer en octobre. Et surtout, ce qui est assez drôle dans le texte de Dévastation Dimitriadis, c'est que c'est toute une réflexion autour de la famille des Atrides et en fait tous ces personnages de tragédie qui n'ont plus envie de jouer et qu'on en marre d'être leur propre rôle, qu'on en marre d'être Hélène, qu'on en marre d'être Agamemnon, qu'on en marre d'être Iphigénie. Et je trouvais que la pièce, par rapport à octobre 2020 et la période qu'on venait de traverser, je trouve avait une très belle résonance. Donc dans le terme commande, c'est pas forcément quelqu'un qui va m'imposer un texte, c'est plus une création que je n'ai pas forcément vue dans une temporalité habituelle qui est celle des 2 ans de création qu'on va prendre pour trouver la production, pour trouver, on va dire, toute son équipe technique. C'est plus une création que j'estime qui est faite dans un geste. Après, Pantaisilé, c'est une création qui a eu sa vie, qui a tourné avec le Grand T, avec le Quai à Angers. Donc voilà, elle a trouvé son espace de représentation.
Et parmi toutes ces commandes-là, on trouve aussi une collaboration avec Arte Radio.
Oui.
Des lectures de textes contemporains pour faire découvrir et entendre ces nouvelles écritures. Les 2 premiers épisodes sont Médéas de Lina Prosa et Si les tyrannosaures étaient restés dans l'arche de Marion Solange Malenfant. Ouais. Comment avez-vous choisi ces 2 textes et de manière plus générale, comment vous choisissez vos textes?
Oui, c'est intéressant. En fait, le projet avec Arte Radio, il est né en fait de l'idée de faire découvrir des auteurs, des autrices contemporains, contemporaines. Parce que c'est vrai que, et il ne faut pas s'en cacher, moi j'aime tous les théâtres et d'une certaine façon, on pourrait me classer dans une forme de tête de texte, alors que des fois, dans ma pratique de mise en scène, des fois, je peux être très proche de ce qu'on peut appeler les écritures de plateau. Donc, pour moi, je ne mets pas vraiment de case. Mais c'est vrai que m'est venue un peu quand même une réflexion générale en étant beaucoup dans le milieu de la jeune création, en étant un metteur en scène dit de la jeune création, que c'est vrai que je trouvais qu'il y avait une petite perte un peu sur les auteurs contemporains, en tout cas ces dernières années, que comme ça, qui fait partie d'une mouvance, hein, comme des mouvements dans l'histoire de l'art. Et j'avais envie, moi, de redonner un peu, de redonner de l'éclat à ça, et de dire aussi qu'en tant que jeune artiste, on peut aussi s'emparer de textes, on peut aussi provoquer des commandes de textes, on peut aussi être en lien avec les auteurs, qui sont aussi, et c'était aussi quelque chose d'un peu politique, parce que moi, dans mes pièces, il n'y a pas forcément un message politique, mais j'aime bien que mon geste un peu soit politique. C'était aussi, on a fait cette collaboration avec Arte Radio LTU, c'était aussi de se dire, en mars 2020, il y a ce confinement. Il y a beaucoup de débats autour de la question de l'intermittence, mais aussi dans le théâtre, on oublie quand même beaucoup les auteurs qui, eux, n'ont pas de statut. Et c'était aussi ça derrière cette notion-là. Alors, bien sûr, j'ai pris Lina Prosa, qui est une autrice italienne éditée au Solitaire Intempestif, dont j'avais travaillé Pantaisilé, donc j'ai voulu refaire découvrir son Médéas. Je trouve que c'est une auteure sicilienne qui est peu connue, alors qu'elle a une œuvre assez magistrale, une véritable réécriture des mythes, une véritable contemporanéité dans les mythes. Et Marion Solange Malenfant, pour vous dire, c'est quelqu'un qu'en fait, qui n'a pas encore édité, mais qui a déjà écrit des textes. Du coup, je voulais aussi donner la chance à une autrice qui n'a pas encore édité et dont j'aime beaucoup l'écriture. Et voilà. En général, mes textes, comment je les choisis? Bon, déjà, j'en lis énormément. Et je les choisis souvent avec une thématique qui revient. Alors souvent, mes thématiques, ça va être celle de la famille, de l'amour, du désir, de l'identité, de l'intime. Voilà, c'est comme ça, avec souvent des écritures qui ont quand même une force poétique assez forte. Voilà, moi je pense qu'au fond, le théâtre il est fait aussi pour faire voir des personnages qui sont pas entendables dans la vie. Bien sûr que ce soit Penthésilée, Phèdre ou Médée, de toute façon, elle n'existe pas. Parce que autrement, elle serait en justice, en prison, je sais pas comment. Et je pense que moi, j'aime bien faire éclore sur un plateau de théâtre et faire jaillir, j'utilise un peu des grands mots, mais en tout cas des figures qui sont des pulsions.
Et vous disiez là que c'était une autrice sicilienne.
Lina Prosa, ouais.
Lina Prosa. Et j'ai l'impression, en tout cas en France, qu'on ne connaît pas tant que ça les auteurs étrangers, autrices étrangères. Qu'est-ce que vous pouvez en dire deux mots de ça?
Je pense que, en fait, ça vient aussi. Je pense qu'en France, on peut les connaître. Après, je pense qu'aussi, c'est vrai que des fois, dans les programmations de théâtre, et ce que je comprends aussi, parce qu'il faut faire venir le public, mais. On a tendance des fois à avoir un peu peur qu'un metteur en scène mette un auteur qui n'est pas connu. Mais je pense pas que le... En tout cas, moi, je crois pas que le spectateur forcément va au théâtre parce que l'auteur est connu. Je pense qu'il va au théâtre parce qu'il y a un résumé, il y a une façon de parler des choses, il y a une thématique qui donne envie. Et souvent, moi, j'ai souvent vu des spectateurs, parce que moi, je monte quand même des auteurs très peu connus, que ce soit Lina Prosa, Bernard Souvira... Même Elfriede Jelinek, là, que j'ai monté dernièrement à Angers, c'est, bon, elle est prix Nobel de littérature, mais ce n'est pas des auteurs. Voilà, on ne parle pas de Proust et Laurent Godet, pour le coup.
C'est ça.
Et en fait, les spectateurs sont très heureux de sortir. Moi, beaucoup de fois, j'ai des spectateurs qui sortent en me disant « Mais on peut acheter où le livre ?» Et c'est ça qui est gagné, parce que le théâtre, de toute façon, c'est pas comme les romans, ça ne se lit pas comme ça, C'est particulier de lire du théâtre, c'est pas un livre de chevet, c'est presque des pensées qu'on a avec soi. Souvent, les gens qui lisent du théâtre qui ont les textes de théâtre avec eux, c'est souvent qu'ils ont envie de relire une pensée, relire un personnage, qu'ils lisent deux ou trois pages. J'ai souvent remarqué ça, en tout cas chez les lecteurs de théâtre.
Et du coup, vous avez, en plus de ces créations et de Phèdre dont on parlera plus tard, vous avez aussi encadré des ateliers au collège, mais aussi au conservatoire de Nantes et d'Angers. Quelle place prend la transmission dans votre travail et comment ça nourrit votre travail de metteur en scène aussi, d'être en contact avec des élèves et de travailler avec eux?
Après, pour moi, tout ce qu'on définit comme action culturelle, action artistique vis-à-vis des publics, pour moi, c'est une chose qui est essentielle parce que... En tout cas, moi, je parle beaucoup, comme je vous dis, je travaille toujours sur l'intime, et du coup, quand on parle de l'intime, on parle toujours un peu de soi. Moi, je viens vraiment je suis né des spécialités théâtre dans les lycées, je suis né de toutes ces démarches-là. Et je pense que c'est très important parce que cet effort de transmission, c'est comme ça aussi qu'on va garder les spectateurs. Voilà. Et pour garder les spectateurs, il faut aussi que les jeunes ils soient très vite en contact avec des artistes, parce que c'est parce qu'ils aiment un artiste, parce qu'ils aiment une pratique, voire une personne, qu'ils vont... après vouloir continuer une démarche artistique et théâtrale. Donc pour moi, c'est essentiel. Et puis, j'ai une deuxième chose que j'aime beaucoup dans les ateliers, que ce soit amateur, collégien ou lycéen, c'est qu'en tant que metteur en scène, moi qui travaille qu'avec des acteurs professionnels, quand je me retrouve face à des amateurs qui, des fois, n'ont pas le langage, la méthodologie, qui n'ont pas le langage qu'on va utiliser, entre professionnels, ça me permet aussi de re-questionner ma direction d'acteur et ma méthode. Voilà. Et ça me permet aussi, une troisième chose que j'aime beaucoup, par exemple, plutôt avec les élèves du conservatoire, là, quand on parle d'étudiants, ça me permet aussi de travailler des auteurs que je n'ai pas la nécessité de monter. Voilà, ça me permet, par exemple, j'ai monté des choses sur Rosenthal, des choses sur Richter, des choses sur Krimp, et que c'est des grands auteurs, mais c'est pas forcément des auteurs que je mettrais dans ma ligne artistique première, et du coup, ça me permet de les faire découvrir, et du coup, de continuer à avoir un œil aguerri sur l'écriture contemporaine, et d'être toujours en mouvement. Parce que le problème, c'est que quand on est metteur en scène, on monte une pièce, allez, une fois tous les 1 an et demi, et puis après, bah, on passe beaucoup de temps en production, et des fois, bah, il est où notre temps de recherche? Voilà. Et le temps de recherche, bah, du coup, moi, je le fais avec les collégiens, les lycéens... les étudiants, et ça me permet de rester actif et lecteur.
D'accord. Vous en êtes à votre troisième création avec Phèdre, avant ça?
Quatrième.
Vous... Quatrième.
Quatrième.
Okay. Ah bah avant
non, mais parce que je viens juste de créer Jacques Elfriede Jelinek, donc.
Vous avez monté juste La fin du monde de Lagarce,
ouais.
Nu masculin debout.
De Bernard Souvira.
Ouais. Deux textes contemporains de théâtre, et Elfriede Jelinek, du coup. Et aujourd'hui, toujours sur un texte de théâtre, vous proposez un texte relativement classique avec Phèdre. Qu'est-ce qui vous a mené à faire ce choix-là?
Bon, on va dire que le texte n'est pas vraiment classique parce que ce qui se passe, c'est que j'ai demandé... En fait, moi, depuis le lycée, j'ai toujours aimé cette histoire-là. Ça a commencé très bêtement. J'ai vu Dominique Blanc sur une vidéo jouer Phèdre dans Le Racine de Patrice Chéreau et j'ai tout de suite aimé le mythe. J'aime le mythe parce que Bon, dans mon travail, et même si c'est quelque chose que, voilà, qui est en filigrane, je traite beaucoup de la question du désir et des amours impossibles. Voilà. Et donc Phèdre en est, on va dire, l'icône, l'allégorie, la métaphore, la puissance. Voilà. Bon. Un, c'est la première raison. Deux, moi j'ai une théâtralité où c'est vrai que j'aime beaucoup le personnage féminin, j'aime beaucoup l'actrice. Voilà, j'aime beaucoup, et moi je questionne beaucoup la question de l'actrice, notamment là dans ma dernière pièce, Jackie Kennedy, d'Elfriede Jelinek en monologue, et que pour moi, Phèdre, c'est l'incarnation de l'actrice. Dans sa toute, dans ce même Phèdre veut dire en grec l'éclatante, la brillante. Donc pour moi, c'est l'actrice. Voilà. Et une troisième chose aussi, c'est que dans les Phèdres, je n'arrivais pas à choisir entre celle de Racine, celle de Ripide, celle de Sénèque. Toutes les trois me plaisaient, même celle de Saraken, mais je n'arrivais pas à choisir parce que je savais que quand on monte Racine ou on monte Sénèque, on doit pas se confronter à l'œuvre, mais à l'histoire du théâtre. Voilà, monter Racine, c'est se confronter à son histoire de théâtre. Et moi, j'estime qu'en en tant que jeune metteur en scène, en tant que jeune praticien, ce qui a fait que depuis 2017, j'ai pas encore la maturité de pouvoir me dire qu'est-ce que je pense profondément du théâtre. Du coup, j'ai monté Racine ou Shakespeare. Du coup, j'ai demandé à une réalisatrice et scénariste qui s'appelle Pascale Breton, qui a fait un film Suite armoricaine, donc qui est très drôle, qui se passe ici à Rennes 2. Oui. Que j'ai rencontré via une metteur en scène, Mélanie Lerec, et de Rennes, et qui suit beaucoup mon parcours, avec qui je suis, on va dire, en compagnonnage, qui a travaillé avec elle et qui m'a conseillé en me disant « Mais Pascale Breton veut écrire, a le désir d'écrire sa première pièce de théâtre, elle qui a été scénariste, réalisatrice, traductrice. » Et du coup, j'ai proposé à Pascale qu'on fasse ensemble, une réécriture de Phèdre. Mmh. Voilà. Comment Phèdre, le mythe, prend sa contemporanité maintenant, en 2021, et comment elle est encore moderne, contestable, puissante, voilà, qu'est-ce qui fait que Phèdre nous anime encore?
Mais du coup, vous travaillez fréquemment avec les mêmes équipes, Louis Sarri à la scénographie, mmh. Vincent Chrétien à la lumière, Laure Maéo au costume. Qu'est-ce que la longueur de cette collaboration permet aujourd'hui, 3 ans après votre premier spectacle, 4 ans même?
Non, mais c'est très intéressant de ce que vous relevez, parce que c'est vrai que j'ai une équipe technique qui met où je suis très fidèle à eux, parce qu'en fait j'ai, voilà, et je le dis avec vraiment une modestie, hein, mais j'ai un univers esthétique auquel je tiens et auquel je développe, et c'est vrai que mon travail, il est à la fois, c'est pour ça que quand je parle d'écriture de plateau et de texte, mm-hmm. pour moi des fois c'est un peu similaire. J'ai aussi toute un accompagnement technique, que ce soit en scénographie, à la vidéo, en lumière. J'aime des espaces assez oniriques, assez esthétiques, donc qui demandent beaucoup de travail, qui demandent aussi une certaine compréhension de ce que veut le metteur en scène, et c'est pour ça que je travaille vraiment en fidélité avec une équipe technique que j'estime vraiment des collaborateurs artistiques proches de moi, et maintenant on se connaît bien, on a une méthodologie de travail ensemble. Alors il faut toujours faire attention que ça ne devienne pas un système, hein, mais bon, ça, on va dire, c'est la puissance des textes qui nous bouscule.
C'est le moment d'entamer une deuxième pause musicale avec le choix de notre invité, une reprise de la chanson « Les mots bleus » par Alain Bachung.
Il est 6 heures, clocher de l'église, dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'envolent. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile que nous retrouverait. Nous retrouverait. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles. Nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qui rendent les gens heureux. Je lui dirai les mots bleus. Je lui dirai.
Nous sommes toujours dans Tonnerre de Brecht sur Syllab et nous venons d'entendre Les mots bleus dans une version d'Alain Binchung. Pourquoi avoir choisi de diffuser cette chanson pour illustrer votre travail, Clément Pascal?
J'ai choisi parce que comme Phèdre passe, on va dire, son temps à décrire Hippolyte, qu'elle ne voit pas mais qu'elle observe, en tout cas si qu'elle voit mais qu'elle n'arrive pas à entrer en contact, je trouve que cette chanson, on va dire, a cette puissance-là et c'est comme si Phèdre voyait en permanence défini par des mots et des mots sûrement très bleus, tout cas dans la nuit, son désir pour Hippolyte.
D'accord. Et vous en avez parlé un peu tout à l'heure de Pascal Breton, qui est l'autrice du coup de la réécriture de Phèdre. Mais vous dites que vous interprétez le processus et le rythme de fiction de cinéma dans vos créations. Et est-ce que du coup la collaboration avec Pascal Breton s'est faite naturellement, puisqu'elle est elle-même scénariste et réalisatrice pour le cinéma et la télévision?
Oui, bien sûr. En fait, dans mon travail artistique, c'est vrai que je construis les pièces comme des films. On va dire, en tout cas, je respecte un rythme de cinéma qui me plaît beaucoup, parce que je trouve que à travers le cinéma, j'arrive, on va dire, à créer des plans et un onirisme. Et c'est vrai que de voir... J'aime bien que le théâtre, ce soit un espace qui soit hors du temps. Et je trouve que le rythme cinématographique, en tout cas, me permet ça sur un plateau de théâtre. Alors que finalement, bizarrement, quand on voit un film, on a l'impression qu'on est dans le réel. Mais c'est ça qui est assez drôle, c'est le décalage entre ce qu'on voit sur un plateau et ce qu'on voit à l'écran. Après, c'est tombé aussi sous le sens avec Pascal Breton, déjà parce que j'avais beaucoup aimé Suite armoricaine. voilà, et que du coup je trouvais que dans son film traiter des thématiques qui des fois m'obsèdent aussi un peu, des thèmes sur la mémoire, le souvenir, l'identité, sur aussi un certain rapport à l'histoire de l'art, comme je vous expliquais. Et puis il y a aussi que chez Pascal Breton, je voulais aussi une scénariste pour une raison, c'est que j'avais envie de travailler une écriture que je définirais assez simple pour Phèdre. Voilà. Je trouve que souvent dans les réécritures, en tout cas Phèdre, on l'a toujours beaucoup complexifié son langage, et j'avais envie en tout cas de la simplicité d'une scénariste, voilà, qui écrit un dialogue, qui écrit une situation, et dans laquelle après moi je peux projeter un imaginaire. J'avais pas forcément, comme je vous dis, chez Racine et Sénèque bien sûr sont des très grands auteurs, je sais même pas si on peut l'appeler des grands auteurs, c'est des génies, c'est des monuments presque. Mais après, je trouvais qu'il y avait une certaine complexité de la langue que j'avais pas envie de traiter. Et voilà. Et puis, je pense qu'aussi, Phèdre, les mythes doivent se réécrire au gré du temps, comme j'écris dans mon dossier. Mm-hmm. Mais ça, je le pense profondément. Et du coup, ils se réécrivent au gré du temps. Et on poursuit finalement Sarah Kane. Et on poursuit modestement ce travail de réécriture.
Et il y a un extrait, du coup, dans le dossier du texte. Et c'est un long monologue, quoi.
Enfin, oui, ouais. Un prologue, ouais.
Voilà, le prologue. Est-ce que, du coup, il y a d'autres personnages qui interviennent ou c'est vraiment juste un long monologue comme Alfred Jelinek avec Jackie ou pas du tout?
Ah non, là, on va faire une pièce avec moi, dans mon idée. Mais alors, ça finira peut-être à 4 acteurs, mais pour le moment, on en voit 8 à 10 acteurs. Voilà, ouais. Donc voilà, j'avais aussi envie de passer sur une pièce aussi avec beaucoup d'acteurs. C'est aussi pour ça que j'ai demandé à Pascal Breton, qui est une autre raison, c'est que dans son film Suite armoricaine, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Voilà, il y a Valérie Dréville, en tout cas François, le personnage principal, qui traverse, qui re-rencontre ses anciens amis, ses anciens amours. Et donc je voyais aussi dans Pascal Breton la capacité pour écrire pour beaucoup de personnages. Et c'est ça aussi qu'ont la qualité des scénaristes. Ils n'ont pas peur d'écrire pour des fois presque 15 personnages. Et ça, je trouve ça quand même assez puissant.
Et donc, entre le moment où vous avez eu l'idée de travailler sur Phèdre et le travail de création, là, aujourd'hui, il y a forcément une évolution. Puisque déjà, ça passe de 4 à 8, où on va voir, quoi. Et du coup, je m'interroge aussi notamment sur le titre, parce que jusqu'à maintenant, ça s'appelle juste Phèdre. Et ouais. Sur le dossier, c'est marqué « Titre provisoire ». Est-ce que ce titre a évolué aujourd'hui et pourquoi vous avez indiqué « Titre provisoire » ?
Alors, pour vous dire, déjà, on n'est pas complètement en création, parce que normalement, la création, elle sera en 2023, à peu près. Okay. Voilà. Là, on est dans une coopération, donc c'est dans ce cadre-là, la coopération donc Rennes, Nantes, Brest, Rouen. Ah. Donc un dispositif en fait voilà, que vous devez connaître. Donc là, ma première résidence est au manoir de Tizé. Après, j'en aurai une deuxième en juillet à Brest, à la Chapelle des Réseaux, avec 3 élèves sortant du TNB, avec qui je vais travailler les premières matières du texte de Pascal. Ensuite, j'irai à la Fabrique de Chantenay à Nantes, et puis en février au Centre Dramatique de Rouen. Et ce sera, on va dire, la fin de l'écriture et sûrement la constitution d'une première maquette et d'une première équipe pour après créer en 2023, parce que c'est un très long processus. Qu'est-ce que vous me posiez comme question?
Donc forcément ça évolue.
Et ça évolue. Et le titre en fait pour le moment, alors là pour, mais parce qu'après on s'amuse avec le titre dans notre présent, mais pour le moment il s'appelle Phèdre-synopsis.
D'accord, ok. Donc ça avance petit à petit.
Oui, ça avance petit à petit. Ouais.
Et quelle évolution il y a un peu concrète entre l'idée que vous aviez eue avec Pascal Breton à la base, parce qu'elle n'a pas peur d'écrire pour plusieurs personnages. Uh-huh. Vous disiez qu'il n'y allait avoir que 4 personnages peut-être.
Non, que finalement, il y en aurait peut-être 8.
8, ouais, okay, d'accord. Et du coup, quelles autres évolutions il y a encore depuis le début?
Bah, là, en fait, en ce moment, la résidence à Tizé, comment elle fonctionne, on est accompagné par une universitaire qui s'appelle donc Lucie Thévenet, voilà, qui est une spécialiste de Phèdre, qui vient même sortir un ouvrage aux belles lettres qui s'appelle « De Phèdre à Hippolyte, l'aveu de scène antique à la scène contemporaine ». Donc, il y a qui a fait un essai de 400 pages sur la question de Phèdre et Hippolyte, et donc qui nous accompagne pendant cette résidence. Là, ce qu'on est en train de faire évoluer avec Pascal, c'est on veut essayer de... En fait, on essaye de comprendre pourquoi, parce que dans Phèdre, c'est une question essentielle. Pourquoi il y a cette question du mensonge dans Phèdre? Voilà, parce que Phèdre, ce mythe est quand même douloureux à notre époque aussi, en 2021, avec, avec les actualités qui ont été traversées. Donc comment on prend ce mythe-là, parce que c'est important. On essaye aussi de savoir quel est l'amour maintenant en 2021. Voilà. Quelle place on laisse au désir et à l'émotion dans une société quand même où de plus en plus, en ce moment, on est quand même très reclus les uns. On est très reclus chez nous. Voilà. Donc voilà, là on est vraiment dans un travail plus d'exploration dans le sens qu'est-ce qu'on veut vraiment raconter de ce mythe-là. à l'heure de 2021. Finalement, plus que de savoir combien il y aura de personnages.
D'accord.
Voilà.
Vous êtes en ce moment en résidence au domaine de Tizé dans l'association Au bout du plongeoir. Et comment se passe le travail au plateau ?
Alors là, pour vous dire, on n'est pas vraiment au plateau parce qu'on n'est que Pascal, donc l'autrice et Lucie Thévenet, donc l'universitaire. Mmh. Et on est vraiment dans un travail, et c'est assez intéressant, je dirais presque de traduction. Voilà. Et donc ça relie Pascal qui traduit donc Sarah Kane et Lucie Thévenet qui traduit des textes antiques. On est vraiment dans un travail de traduction et de déchiffrage, comme j'explique, où on relie Euripide, Sénèque, Svetaïeva, Kane. Et c'est un très 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 gros travail qui est immense et qui est super. C'est un travail presque de spécialiste. Et c'est vrai que dans mon travail artistique, ça me fait du bien parce que moi j'ai toujours monté donc trois pièces et de façon, on va dire, très efficace. Ça veut dire en quatre semaines, avec l'équipe technique et voilà. Et j'ai pas toujours pris ce temps-là. Et là, ça me fait du bien de le prendre. C'est aussi, comme je dis souvent, c'est important aussi de se re-questionner après des cycles. Voilà, de 2017 à 2021, ça fait 3-4 ans. Bah voilà, c'est une première phase de mon travail avec trois sorties de pièces. Et maintenant, de savoir aussi comment je veux continuer à faire du théâtre. Et donc, le projet et les résidences et le dispositif de la coopération tombent, comme on dirait, à pic.
Et du coup, par rapport aux traductions aussi, je m'interroge beaucoup par rapport à ça en ce moment. Comment on adapte aujourd'hui fait, enfin, vous avez un peu répondu à ça avant en disant qu'il y a toujours cette question-là en 2021 avec en plus l'inceste, etc. Mais il y a des références qu'on a pu aujourd'hui chez Sénèque, par exemple. Mmh. Comment on adapte ça maintenant, quoi ? Un peu l'idée.
Eh ben, on demande à une autrice de maintenant de réécrire fait. Non, mais je vois ce que. Non, mais après, je pense que de toute façon, le théâtre, d'une certaine façon, il existe quand même depuis 3000 ans. Il a vécu beaucoup de choses et je pense pas que cette pandémie, et je ne le crois pas, l'arrêtera. Après, si on réinterroge ces mythes, c'est aussi qu'ils ont été à un moment donné pour répondre à des questionnements existentiels et que les questionnements de Phèdre, ils sont existentiels. C'est en fait, comment aimer quelqu'un qui nous aime pas ?
C'est... Voilà. Et est-ce que vous avez déjà des idées pour les prochaines résidences à la Chapelle des Réseaux, etc. Comment vous voyez
le processus de création,
ouais, exactement.
Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler donc avec trois élèves sortant du TNB, donc Laure, Luc, Arthur. Donc que j'ai vu dans un atelier de Guillaume Vincent. Je suis désolé, je dis pas leur nom de famille parce que j'ai peur de les écorcher. On se connaît vraiment pas beaucoup. Je viens juste de les rencontrer, donc voilà.
Okay.
Voilà. Mais et donc voilà, ils vont travailler avec moi sur les 40 premières pages que Pascal aura écrites. Pourquoi j'ai choisi eux pour cette résidence ? C'est parce que j'étais très content aussi de travailler avec des acteurs qui n'ont pas travaillé avec moi, parce que comme ça je peux davantage entendre le texte de Pascal et du coup après pouvoir travailler dessus, voir les scènes qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Si j'avais peut-être travaillé avec des acteurs que je connais très bien, avec qui on a une grande complicité, qui bien sûr seront après sur la création avec ces jeunes-là. C'est-à-dire, je commence d'abord avec trois acteurs que je ne connais pas pour entendre le texte et qu'il n'y ait pas ce rapport-là où on se connaît tellement bien que de toute façon on arrive, je dirais, c'est une grande blague, à s'arnaquer les uns et les autres depuis qu'on se connaît. Voilà, alors que là, on va vraiment commencer dans un nouveau rapport. Donc, et aussi pour moi, un nouveau texte. Voilà. Donc, et puis après, Nantes et Rouen, là, ce sera beaucoup plus la constitution de l'équipe avant la création vraiment finale en 2023. Et pour vous dire, par exemple, dans le mythe de fête, ça c'est important, c'est que là, on est en train de découvrir quelque chose qui est essentiel et qui peut-être, en fait, moi, me dérangeait au fond, en fait, c'est qu'à chaque fois, on a toujours vu une femme qui a 50 ans et qui tombe amoureuse d'un homme de 20 ans, comme dans la chanson de Dalida, c'est bien pour ça que je ne l'ai pas choisie. Ouais. Mais en fait, si on regarde bien ce que Lucie Thévenet, tout ça, en fait, peut-être qu'on oublie aussi une histoire, c'est que Thésée, donc choisit Phèdre, laisse sa sœur Ariane. Peut-être Thésée a 35 ans, il a déjà eu un fils qui a 10 ans. Peut-être Phèdre a 18 ans, peut-être qu'en fait elle n'a que 25 ans et que du coup son beau-fils n'a que 18 ans. Et qu'en fait, c'est peut-être aussi l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune homme.
Oui,
et c'est peut-être pas l'histoire forcément d'une nana de 50 ans frustrée sur l'amour et qu'on peut plus. Et... Non, mais c'est aussi ça, remettre aussi le. Voilà, c'est aussi remettre l'histoire d'amour au centre et pas forcément l'histoire de morale, en fait. Voilà.
Mais même si tout cela est donc très incertain, est-ce qu'il y aurait des potentielles dates déjà où on pourrait voir jouer Phèdre après ces 4 résidences?
Oui. Après, je peux pas trop en parler parce que c'est je peux pas dire là. Puis alors, vu la période actuelle, oui. Les producteurs, ouais, c'est on va ça. Dire, c'est pas forcément là où on va peut-être. Mais oui, la création sera suivie. Bon voilà, dans mon parcours, vous pouvez remarquer qu'il y a certains lieux qui reviennent quand même. Donc souvent, je pense que ça va sûrement pas être trop loin de ça. Voilà. D'accord. Mais je peux pas officiellement le dire parce que voilà, par respect pour ceux qui me coproduisent et qui me suivent, je peux pas engager leur parole. Mais je
ouais. Oui, d'accord. Eh ben, c'est ainsi que s'achève notre émission. Du coup, merci Clément Pascoe d'avoir accepté notre invitation et longue vie à votre Phèdre.
Oui. Et merci à Maëla Jacquinet et Au bout du plongeoir de nous permettre de découvrir des artistes aussi intéressants.
Et merci à toi Léa qui, en plus de co-animer l'émission, l'a réalisée ce soir.
Enfin best, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien et on ne lâche rien. Des bisous.
Ouais, bisous.
Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabes.